Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avant-hier, mardi, aux Invalides, le chef d'état-major de l'armée de terre a remis le prix Erwan Bergo, c'est-à-dire le grand prix littéraire de l'armée de terre, à l'écrivain Pierre-Marie pour son roman Les Grands Jours, paru chez Fayard. Et Pierre-Marie est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je vous lirai tout à l'heure quelques extraits de ce beau texte et ce sera un plaisir d'en parler avec l'auteur. Avant cela, je vous propose de faire connaissance avec le personnage principal du roman, un personnage qui a bel et bien existé et qui lui-même a écrit quantité de romans, le colonel Drian.
Les romans du colonel Drian étaient signés du pseudonyme Capitaine d'Henri et ils ont eu beaucoup de succès avant la Première Guerre mondiale.
Oui, il faut dire qu'ils traduisaient parfaitement l'état d'esprit de leur époque. Pour nous parler de Drian alias d'Henri, j'ai invité son biographe, Daniel David, ainsi qu'un des membres éminents du prix, du jury du prix Erwan Bergo, notre ami Jean-Pierre Guénaud. Un moment seulement pour vous dire qui était cet Erwan Bergo qui a donné son nom au prix. C'était un ancien parachutiste fait prisonnier à Dien Bien Phu par le Viet Minh et qui a été par ailleurs une des grandes plumes du journalisme. Erwan Bergo est mort il y a 20 ans.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
L'après-midi du 22 février 1916, on est donc au début de la terrifiante, de l'apocalyptique bataille de Verdun, le bois des corps est défendu par un groupement formé des 56e et 59e bataillons de chasseurs. À la tête de ce groupement, le lieutenant-colonel Drian, par ailleurs parlementaire et rapporteur de la commission de l'armée, voyant tomber les positions latérales et constatant qu'une partie de ses effectifs était perdue, Drian ordonne le repli des survivants et c'est à ce moment-là, c'est durant ce mouvement qu'il est atteint d'une balle en pleine tempe. Émile Drian est mort, il avait 60 ans. Aussitôt, la nouvelle va faire le tour des popotes. Les autorités vont récupérer l'événement, faire du soldat défunt une gloire nationale et pour cause, celui qui restera dans l'histoire comme le colonel Drian, mais que ses lecteurs connaissent en effet sous le nom de plume de d'Henri. Et plus qu'un parlementaire engagé, un grand patriote mort au champ d'honneur, il est un écrivain à succès, auteur notamment de toute une série de romans d'anticipation, plutôt destinés à la jeunesse, des romans d'aventure dans la veine de Jules Verne, mais alors un Jules Verne singulièrement porté sur la guerre, tout de même, une guerre du futur peuplée d'inventions, et vous allez voir d'inventions souvent prophétiques. La guerre de demain, les Robinson souterrains, l'aviateur du Pacifique, les Robinson sous-marins, la guerre fatale, l'invasion jaune, l'invasion noire, autant d'ouvrages obsédés par le sentiment patriotique d'une revanche à prendre. Il est vrai qu'Émile Drian avait 15 ans au moment de l'invasion prussienne de 1870 et qu'il ne s'était jamais fait à l'idée de l'amputation de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine infligée à la France par Bismarck. Il était loin, très loin, d'être le seul dans ce cas. Entré dans l'armée pour aider à cette revanche qu'il appelait de ses voeux, il aura été l'ordonnance du célèbre général Boulanger. Il devait du reste épouser la fille de Boulanger. Il quittera l'armée en 1905 après l'affaire des fiches, sur laquelle nous allons évidemment revenir, et il se lancera donc dans le journalisme et l'écriture et se fera fortement remarquer par un ouvrage polémique intitulé « Vers un nouveau Sedan ». Ça aussi, nous allons en parler. Il sera élu en 1910 député de la 3e circonscription de Nancy et pourra défendre en tant que parlementaire la célèbre loi des 3 ans visant à allonger la durée du service national obligatoire. On était dans la préparation même de la guerre. Nous allons revenir sur tous ces aspects et sur quelques autres en compagnie de mes deux premiers invités. Et bien sûr, nous allons rouvrir ces romans d'aventure très orientés dont les titres et les couvertures nous paraissent aujourd'hui, disons-le, avoir sensiblement vieilli.
Pour nous prendre verdun et contracter l'emprunt dans leur pays bloqué, effrayant la famine, les Allemands maudits, un beau jour c'était dit, tombons sur les Français, écrasons les pardines. Ils avaient escompté un éclatant succès. Leurs journaux d'outre-Rhin priaient déjà victoire. Mais nos vaillants soldats qui se battent là-bas sur un peu de temps enrayer cette gloire.
Une chanson de 1916, Marcelli sur Europe 1, avec qui ils ne passeront pas. À tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'histoire. Et avec vos invités aujourd'hui, Franck, sur Europe 1, Jean-Pierre Guénaud, écrivain, historien, directeur de la culture d'Aristophile et des musées des lettres et manuscrits de Paris et de Bruxelles. Et puis Daniel David, qui a fait sa carrière au CNRS où il a été directeur de recherche. Il est l'auteur du livre « Le colonel Drian, de l'armée à la littérature, le Jules Verne militaire » aux éditions Club Gérard.
Bonjour à tous les deux. Alors tout de suite, Jean-Pierre Guénaud, un mot sur cette dimension prophétique qui s'attache à la personnalité de Drian. On dit le Jules Verne militaire, et c'est vrai que les romans d'aventure qu'il a publié avant la Première Guerre mondiale, font penser dans leur inspiration, on est dans cette veine de romans d'anticipation en vérité.
Dans cette veine, mais avec des flashs absolument hallucinants. Dans un livre paru en 1910, qui avait pour titre « La Révolution de demain », il décrit une populace parisienne déchaînée qui fait incroyablement penser à ce qui s'est passé en mai 68, et d'ailleurs là, les pavés jouaient le premier rôle, comme ce sera le cas donc en 68. Mais il y a encore beaucoup plus fort. Toujours en 1910, dans un roman intitulé « L'aviateur du Pacifique », il raconte l'histoire d'un inventeur assez génial qui a conçu un aéronef avec des polycarburants. Donc déjà, on est dans des débats très troisième millénaire. Mais là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il prédit l'invasion jaune, entre guillemets, notre ami Drian. Et quand cet homme, avec son aéronef plein de multicarburants, survole le Pacifique, il est du côté de Pearl Harbor, de Midway. Et il n'arrive pas à prévenir les États-Unis par radiotélégraphie parce que les Japonais ont disposé dans le Pacifique une chaîne de chalutiers équipés d'antennes qui brouillent les ondes radio. On est en plein futur. Mais ce qui est incroyable,
il est quand même assez doué.
Ce qui est incroyable, c'est qu'il met en avant Pearl Harbor. Pearl Harbor 42, il y a là quelque chose de très troublant.
La date de la publication
1910.
Donc, c'est ça, donc avec une bonne trentaine d'années en avance. Et il y a comme ça des esprits qui ont suffisamment l'intelligence des choses pour en deviner plus ou moins le contour, bien avant.
Et puis avec un impact formidable, parce que c'est comme Rowling, c'est Harry Potter. Il a des scores équivalents à ceux d'Harry Potter en son temps.
Alors je dois vous dire, Daniel David, que ça fait très longtemps que je devais vous recevoir, donc je suis très heureux de rattraper ce qui était une lacune en vérité, car vous m'aviez envoyé au moment de sa parution chez Gérard Klopp éditeur, un très très beau, très bel ouvrage qui est en soi d'ailleurs un très bel objet, magnifiquement illustré, et dans lequel vous avez à la loupe scruté la biographie d'un personnage qui, pour avoir été très célèbre en son temps, avait peu à peu fini par disparaître un peu de la chronique, il faut bien le dire. Nous l'avait ressuscité, ce colonel Drian.
Oui, en effet, il y a eu une éclipse après la guerre, bien la dernière guerre, bien sûr, bien qu'une promotion de Saint-Cyr ait pris pour nom de baptême au lieu de notre colonel Drian en 1966. Elle a fait beaucoup pour entretenir la flamme. Et puis, en ce qui concerne le livre dont vous parlez, dont je suis redevable à Gérard Klopp, qui fait des ouvrages magnifiques, d'autant plus que le sujet, par son iconographie, s'y prêtait, eh bien, les circonstances ont fait que j'ai pu consacrer, sur le tard, dans les années 80, une thèse d'histoire à Drian. Et je dois remercier ici le professeur André Martel, au Centre d'histoire militaire de Montpellier, qui a bien voulu assurer la direction de cette thèse. Le résultat, vous l'avez sous les yeux.
Il faut que nous revenions sur cette remarquable biographie. Drian, Émile Drian, est véritablement l'enfant de cette revanche qu'on attendait. Il avait 15 ans tout juste, au moment, il était en 1855, hein, donc au moment où le Second Empire s'effondre à Sedan et où les armées du roi de Prusse, qui n'est pas encore empereur d'Allemagne à l'époque, envahissent la France. Ça a été un traumatisme considérable. Les circonstances du règlement de 1871 l'ont définitivement marqué, et cette amputation de l'Alsace, d'une partie de la Lorraine, cette défaite militaire, cet affaissement du pays, tout ça l'a profondément meurtri et il n'avait plus dès lors comme ambition que de venger 1870.
En effet, c'est l'antagonisme franco-prussien qui est devenu franco-allemand par la suite. Mais pour compliquer les choses, il y avait un antagonisme franco-britannique sur fond de querelles coloniales. Si bien que des Français réalistes, il n'y avait pas que Drian, se sentaient en quelque sorte pris entre deux feux. L'alliance avec l'Allemagne, c'est impossible à cause de l'Alsace-Lorraine. L'alliance avec l'Angleterre, pas davantage. Donc ces conditions, que faire? Être neutre, mais disait Drian, pour être neutre, il faut être fort, et fort, hélas, nous ne le sommes plus.
Oui. Et donc il va constamment chercher, parce que ça c'est l'un des aspects intéressants du personnage, on peut dire, Jean-Pierre Guénot, qu'il n'est pas seulement un militaire, parce qu'il va entrer très vite dans les armes, il est aussi un visionnaire, ça on le verra lorsqu'il deviendra romancier, il est surtout un homme de réflexion. Il est constamment dans la recherche de ce qui pourrait, d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue plus moral, de ce qui pourrait aller dans le sens d'une victoire de la France, en fait. Hein.
Moral est le mot. Et non seulement le militaire, mais quand il sera parlementaire ultérieurement, il a eu la préscience de choses pour lesquelles il faudra attendre le Conseil national de la Résistance pour qu'elles soient mises en place. Il a eu, en tant que parlementaire, il a œuvré pour qu'on évolue vers une protection sociale telle qu'elle a été mise en place après la guerre. Là encore, c'est quelque chose de troublant. Quels que soient les domaines auxquels touche Drian, l'art des armes, la littérature, la fiction ou la politique, c'est un visionnaire.
Alors ce visionnaire, nous allons voir quelle carrière il a faite avant de prendre la plume. Et vous allez voir que cette carrière, en quelque sorte, a décidé de tout.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Europe 1, cher Franck, la fanfare du premier groupe de chasseurs, Drian.
Ah ça fouette le sang.
Hein, ah complètement.
Ce premier groupe de chasseurs, évidemment, qui a été rebaptisé du nom du héros. Alors, venons-en justement au premier pas de Drian dans la carrière des armes. On peut dire que chez lui, c'est une véritable vocation, Daniel David.
En effet, et l'une de ses premières affectations est intéressante parce qu'elle n'a rien d'anonyme. Il a été affecté au fort de Liouville, qui se trouve sur les hauteurs de Saint-Mihiel. C'est l'un des forts des Hauts-de-Meuse.
Voilà
ce que l'on appelait les rideaux fortifiés serrés de rivière. Et donc, dès le départ, il a été marqué par un intérêt particulier pour la fortification. Et tout à l'heure, vous parliez de Midway, de son roman L'aviateur du Pacifique. Et il y a là des vues tout à fait prophétiques sur l'organisation du fort de demain. Et à l'époque, c'était quelque chose de très nouveau. Alors, bien sûr, on peut penser que c'était un homme qui réfléchissait, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, mais cela traduit également les conceptions de son époque d'officiers ou de sapeurs qui avaient réfléchi à ce que pourrait devenir la fortification, qui a joué un rôle tellement important pendant la Première Guerre et qui a atteint tout en plein développement pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, bien sûr, on verra
avec le
après
système Maginot.
La ligne Maginot,
voilà,
évidemment.
Mais l'aviateur du Pacifique est vraiment prophétique, notamment pour l'électrification des fortifications. Et ça, c'était nouveau.
Alors, assez vite, il va être... dans un premier temps, il est affecté donc en Tunisie. Hein, il va être affecté ensuite un régiment de zouaves, et puis il prend du galon, évidemment, et il devient, non pas tout, j'ai dit tout à l'heure l'officier d'ordonnance, mais non, il devient l'aide de camp, puisqu'on venait à faire un chef de corps, l'aide de camp du général Boulanger. En Tunisie.
Voilà, il a été l'aide de camp de Boulanger qui avait, dans ses desiderata, demandé que l'officier que l'on désignerait pour ce poste sût bien monter à cheval. C'était l'un des désirs de Boulanger.
Sous-entendu élégamment.
Probablement, en effet. Et Drian était à l'époque au 4e Zouave, un corps qui allait beaucoup marquer sa carrière, puisqu'il a connu toute une période tunisienne. Mais c'est là qu'il a commencé à servir Boulanger. Il a épousé la fille cadette de celui-ci, Marcel Boulanger, et malheureusement pour lui, ce lien Drian-Boulanger, l'association des deux noms, lui a porté gravement préjudice par la suite.
Parce que Boulanger, évidemment, ce n'est pas l'ami de tout le personnel républicain qui est en train d'installer le nouveau régime, Jean-Pierre Guénot, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, loin de là, et ça va contribuer à diaboliser...
Il faut rappeler en deux mots qui était le général Boulanger, hein, d'ailleurs. Bah,
il faut rappeler sa fin aussi, puisqu'il y a eu une fin un peu catastrophique avec sa vie privée, je crois qu'il a...
Sur la
sur la tombe de sa maîtresse, Madame Bonnemain.
En se suicidant sur la tombe de sa maîtresse. Et c'est un paradoxe, parce que Boulanger est vu comme quelqu'un de, qui sent le soufre.
Un leader nationaliste,
disons. Au moment où il y a un clivage dans l'armée française, la carrière de tous les officiers catholiques est mise au ralenti après l'affaire des fiches. Les gens qui vont ressortir du lot vont être les francs-maçons d'une part, les socialistes de l'autre. C'est d'autant plus paradoxal que quand on regarde, là encore, la carrière politique de Drian, quand on voit que cet homme était partisan de la journée de 10 heures, des retraites, des libertés syndicales, c'était pas tout à fait ce qu'on attend de quelqu'un comme le général Boulanger, qui a un côté très, beaucoup plus brut de fonderie.
Mais donc c'était la dimension paternaliste, sans doute, de ce courant-là et de ce mouvement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, on est à une époque où les carrières des officiers sont largement subordonnées dans ce qui est l'avancement à leurs opinions. On est tout près de ce qu'on appelle l'affaire des fiches. Il faut expliquer ce que c'est que cette affaire des fiches.
Eh bien, l'affaire des fiches, à laquelle on associe habituellement le nom du général André, qui fut ministre de la guerre, et de son continuateur moins connu, Maurice Berthaud, qui trouvait que André n'en avait pas fait assez dans ce domaine. Cela consistait à noter les officiers pour leur avancement en fonction des opinions politiques qu'ils avaient ou qu'on leur prêtait, et en particulier des pratiques religieuses qu'ils pouvaient avoir ou que pouvait avoir leur famille. Oui. On était là en pleine période également de lutte religieuse, d'expulsion de congrégation. Madame Drian était très pieuse. Drian, lui, était toujours resté, me semble-t-il, dans une position de neutralité, mais c'était le gendre de Boulanger, et ça, c'était le péché originel impardonnable.
On a affaire à un esprit vif et à un caractère très emporté, très entier chez Drian. Il ne se laisse pas faire, évidemment. Il est révolté de ce qu'il découvre.
Il ne se laisse jamais faire, et ça va lui valoir, de par ses déclarations, de par le fait que lors d'une commémoration, il fait précéder la commémoration en participant à une messe, ça va lui valoir des avertissements de ses ministres, des arrêts de rigueur. Enfin, il a une carrière très très mouvementée, ce qui était assez rare chez un officier de ce rang. Hein, c'est un lieutenant-colonel qui aurait dû devenir général de façon foudroyante, mais bien évidemment tout ça a joué contre lui et on a fini littéralement par pourrir sa vie de militaire.
Et finalement par le pousser vers la sortie, j'en
dirais. Vers la sortie, et c'est ainsi qu'il s'est dirigé vers ce qu'on évoquait, c'est-à-dire une carrière de romancier et d'homme politique.
Alors, on va venir au romancier dans un instant, mais avant ça, j'aimerais précisément qu'on parle de cette carrière politique. Est-ce qu'il était naturel pour le gendre du général Boulanger, depuis longtemps suicidé du reste, de devenir à son tour homme politique ?
Cette carrière politique a commencé après son départ de l'armée. Donc, il a été sous les drapeaux, il était tenu par le devoir de réserve. En revanche, il a quitté l'armée dans les conditions que vous venez d'indiquer. Il était chef de bataillon, connu sous le nom de commandant Drian, et poussé par son souci patriotique de renforcer les forces morales du pays dans la perspective d'une guerre qui apparaissait comme de plus en plus inévitable, il a tenté la députation en 1906, dès son départ de l'armée, à Pontoise. Il n'a pas été élu. Et ensuite, il a, pendant plusieurs années, eu une carrière de polémiste et de journaliste. Il écrivait dans le quotidien L'Éclair et il parcourait la France pour faire des conférences.
Je crois que le mot qui compte, c'est vraiment celui-là, c'est le mot de polémiste. Hein. Voilà quelqu'un qui, évidemment, aime afficher des opinions, aller contre un certain nombre d'idées en vogue. Le moins qu'on puisse dire est que l'époque, évidemment, ne va pas dans son sens. Alors, il peut concevoir l'écriture comme une forme de bataille, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui se bat par la plume, en quelque sorte.
Oui, puis par l'acte, parce qu'il s'est produit quelque chose d'hallucinant. Au moment où il va, ou il est sur le point de quitter l'armée, il trouve une façon hallucinante de faire un pied de nez au mouvement maçonnique. Il va créer deux ligues, après l'affaire des fiches. La ligue anti-maçonnique qui ne comprend que des hommes et la ligne de Jeanne d'Arc réservée aux femmes. En fait, ces deux ligues étaient des sociétés secrètes qui singeaient complètement la franc-maçonnerie avec initiation.
C'était des espèces de contre-loges.
Voilà, signes spéciaux et mots de reconnaissance. Elles fusionneront en 1906 avec l'Union française anti-maçonnique. Et ça va devenir la Ligue française anti-maçonnique. C'était de la provocation.
Ça fait quand même déjà penser aux futures ligues de l'avant-Seconde Guerre mondiale.
Oui,
on est dans cet esprit.
Mais en même temps, c'était des pastiches. C'est-à-dire qu'ils reprenaient les structures, qu'ils singeaient, qu'ils dupliquaient.
Ça, oui.
C'était comme un gigantesque pied de nez, donc une provocation.
Presque un canular.
Presque un canular.
Je rappelle le titre de la biographie de Daniel David, Le colonel Drian, sous-titré De l'armée à la littérature, le Jules Verne militaire. C'est très somptueusement édité par Gérard Klopp, éditeur. Dans un instant, nous en venons au cœur du sujet. Nous en venons évidemment à Drian, écrivain, auteur de romans d'anticipation. Je vous l'ai dit, le Jules Verne militaire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 de Jean-Pierre Guénaud, Daniel David. Et pour parler de Drian, romancier, l'écrivain Pierre-Marie nous a rejoint. Il est l'auteur du livre Les Grands Jours chez Fayard Franck.
Bonjour Pierre-Marie.
Bonjour.
Vous avez donc reçu ce beau prix remis par le chef d'état-major de l'armée de terre. Et vous nous racontez dans ce roman les tout derniers jours du colonel Drian et de ses hommes. On est dans ses débuts de la bataille de Verdun. On est dans ce bois des corps sur lequel nous allons venir tout à l'heure, et si vous le voulez, je vais me permettre de lire un certain nombre de paragraphes de votre très joli livre, même beau livre. Avant cela, disons un mot quand même, Jean-Pierre Guénaud, de Drian, auteur, de d'Henri alors. Il n'écrit d'ailleurs pas tous ses livres sous ce pseudonyme-là.
La plupart, c'est le capitaine d'Henri, enfin il était illustré comme tel. Daniel David, qui est ma source, sera certainement beaucoup plus éclairant que...
Et notre source à tous sur le sujet, y compris à Pierre-Marie.
À tous. Mais ce qui a amplifié ce phénomène, c'est non seulement la pertinence de ces romans d'aventure et d'anticipation, mais le fait qu'ils sont devenus par excellence les livres de prix emblématiques. Mmh. Et donc la vie de beaucoup de générations de cette époque-là a été bercée par d'Henri grâce au phénomène des livres de prix.
Alors, ces livres de prix étaient donc remis à la fin des années scolaires, en quelque sorte. Ce qui veut dire que les livres en question étaient destinés spécifiquement à la jeunesse, Daniel David.
Oui, ce sont les présentations popularisées par Jules Verne 30 années auparavant. Ce sont les présentations sous forme de cartonnage polychrome illustré pour les belles éditions.
Voilà, oui.
Car il existait un grand nombre d'éditions économiques, de poche, et chaque roman, à ce moment-là, pouvait représenter un nombre de livres considérable.
D'un point de vue commercial, on peut supposer que l'éditeur s'était d'ailleurs largement calé sur les éditions des ouvrages de Jules Verne, car quand on voit les couvertures, ça ressemble vraiment beaucoup. Hein. On est tout à fait dans cet esprit-là. Alors, que racontent les romans d'Henri, puisque c'est ainsi qu'il signait ?
Alors, il l'a signé comme cela parce qu'il était militaire au départ quand il a publié La guerre de demain. Il était en exercice, donc capitaine Drian, capitaine d'Henri, c'était lumineux. Mais enfin, bon, bref. Ces romans sont bâtis essentiellement sur le thème de la guerre. Guerre contre les Anglais, bien sûr, contre les Allemands. Certains l'ont caricaturé en disant la guerre à tout le monde, mais il fallait quand même qu'ils trouvent beaucoup d'adversaires. Il y a eu la guerre sociale, c'est la révolution de demain. Et puis aussi une forte composante d'anticipation scientifique variable suivant les romans.
Il se renseignait, j'imagine que comme Jules Verne, du reste, il se documentait énormément sur toutes les nouveautés, sur tout ce qui pouvait évidemment donner corps à des inventions, à des éléments du futur en quelque sorte.
Oui, tout à fait, et on voit très nettement une évolution tout au long de son œuvre, entre les anticipations tout à fait fantaisistes de son premier roman, La guerre de demain, où là, vraiment, il y a beaucoup d'imagination, et puis les anticipations beaucoup plus sérieuses de l'Aviateur du Pacifique, dont nous parlions tout à l'heure, et également...
La trilogie des Robinson.
La trilogie des Robinson. La recette est toujours la même. D'emblée, les protagonistes sont mis dans une situation terrible sur le plan de la tension nerveuse. Les caractères s'affrontent. Les personnages, d'ailleurs, portent leur caractère sur leur visage. Ça simplifie beaucoup le déchiffrement. Et puis, tout finit par s'arranger avec une action échevelée. L'action ne cesse pas.
Alors, on parle beaucoup de Jules Verne, évidemment. Mais il faudrait citer Paul Divoy aussi, peut-être, hein, qui est également, on va dire, c'est le troisième auteur de la même veine, en vérité.
Paul Divoy, c'est l'autre disciple de Jules Verne. Et chose curieuse, Paul Divoy et Drian sont nés la même année et sont morts la même année à très peu de choses près. Ils avaient l'un et l'autre 30 ans de moins que Jules Verne. Jules Verne, ce sont 47 volumes en cartonnage polychrome. Paul Divoy, la série des voyages excentriques, 21 volumes, plus quelques autres de la série. Drian, il y a les 6 polychromes Flammarion et d'autres qui malheureusement ne permettent pas de faire une présentation bien homogène sur un rayon de bibliothèque.
Pierre-Marie, vous étiez un lecteur du colonel Drian, enfin de d'Henri, avant d'écrire ce livre ?
Pas du tout. Pas du tout. Non, j'avoue que j'ai découvert les livres du colonel d'Henri grâce au très beau texte de Daniel David. Je dirais tout de suite, puisqu'on en est à commenter la Trinité, la Sainte Trinité, en quelque sorte, de l'imaginaire des garçons de l'époque, Paul Divoy, Jules Verne et le colonel d'Henri, je dirais qu'avec Paul Divoy et surtout avec le colonel d'Henri, on n'est certainement pas au niveau de Jules Verne, même si l'imaginaire est très souvent commun. Je disais tout à l'heure...
Pas la même épaisseur.
Pas la même épaisseur.
Ni profondeur.
Tout à l'heure, avant l'émission, avec Jean-Pierre Guénaud et Daniel David, nous évoquions des titres de Jules Verne. Je lisais, tout récemment, un titre de Jules Verne que je n'avais jamais lu, Les 500 millions de la Bégum. C'est très intéressant, oui, parce qu'on a un imaginaire qui est extrêmement proche de celui... de Jules Verne, à certains égards. On a un livre qui est très ancré dans le contexte revanchard des années 1870, donc un livre qui est extrêmement lié à son contexte, mais qui en même temps échappe complètement à son contexte par son souffle imaginaire. Et je dirais donc qu'avec le capitaine d'Henri, on n'est pas au même niveau de création romanesque.
Alors, ce capitaine d'Henri, alias lieutenant-colonel Drian, il n'est pas d'ailleurs encore lieutenant-colonel au début de la guerre. Hein. Il va recevoir ses barrettes au début du conflit. Il s'engage tout de suite. Bien entendu, il faut raconter dans quelles circonstances il se lance dans cette première guerre mondiale, Daniel David.
Oui, il avait été... Il était officier de réserve, dans le cadre de réserve, puisqu'il avait quitté l'armée. Mais il a fait partie, et c'est une dimension très importante, de ceux qu'on a appelés les députés combattants. Pendant la guerre, il y en a eu d'autres. Il y a eu Ebernet Garay, il y a eu Abel Ferry. Leur souvenir est conservé dans une salle de l'Assemblée nationale. Et Drian, qui avait été officier de carrière, ne pouvait que reprendre du service. Et on lui a donné, comme chef de bataillon de réserve, le commandement donc de deux... bataillon de chasseurs à pied de réserve, le 56 et le 59.
Ce qui veut dire que sa carrière politique s'interrompt à ce moment-là ? Ça se passe comment d'un point de vue concret ? Parce qu'il est toujours député.
Il était toujours député, mais sa carrière
politique,
député,
oui,
pendant la guerre, oui, a été. Il a fait quelques apparitions à Paris, mais elle a quand même été mise en veilleuse. Il consacrait l'essentiel de son activité à son commandement. Il a fait quelques apparitions à Paris à cette époque, certainement.
Alors il va mourir dans des circonstances particulièrement dramatiques, donc au tout début de l'année 1916, dans le début de ce qui va être cette apocalyptique bataille de Verdun. C'est ce que vous racontez dans Les Grands Jours, Pierre-Marie. Et si nos auditeurs le veulent bien, je vais en lire quelques extraits du début de votre texte. Bien entendu, je ne vais pas tout déflorer. Ce serait criminel de faire ça.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Franck Ferrand qui feuillette sur Europe 1 Les Grands Jours de Pierre-Marie, disponible chez Fayard.
Émile Drian n'est pas homme à réprimer sa parole ou ses écrits, nous dit Pierre-Marie, et vous allez voir que dans les quelques lignes qui suivent, c'est en quelque sorte le résumé de tout ce que nous avons dit depuis le début de cette émission qui va apparaître. C'est bien pour ceux qui prennent l'émission en cours. Il y a des années qu'il livre son combat, retentissant et solitaire contre les consignes d'étouffement et de silence. Il a quitté l'armée en 1905 après une carrière suscitée au lendemain de 1871 par l'espérance d'une guerre prochaine. Saint-Cyrien brillant, crédité d'un bel avenir par ses supérieurs, il n'a pas tardé à acquérir la réputation d'un officier de première valeur. Il est populaire, on le mentionne dans les journaux, on cite en exemple les bataillons qu'il dirige, mais la notoriété se double vite d'ostracisme. Son déroulement de carrière est entravé avec une constance dont il finit sans apparence d'amertume par tirer les conclusions. L'équation de l'échec ou de l'achoppement des ambitions est chez lui très simple. Il tient en trois termes, dont les événements n'entameront jamais l'alliance néfaste. D'abord, il est le gendre du général Boulanger. Ensuite, il supporte très mal la crise morale qui dégrade les liens entre le pays et son armée. Enfin, chacun de ses éclats s'attire à son corps défendant ou non une publicité incomparable avec l'idée qu'on se fait en haut lieu du devoir de réserve. Plus loin, écrit Pierre-Marie, quelques années plus tôt, encore en activité, Drian amorçait une seconde carrière, d'emblée heureuse, celle d'homme de lettres. piqué de la tarentule d'écrire, comme il l'avoue dans une dédicace à Jules Verne, il veut appliquer à la guerre patriotique les procédés d'anticipation du romancier. À croire que le grand public attendait un Verne croisé de Barrès et de Déroulède et que le premier à tenter la greffe emporterait ses faveurs. En peu de temps, Drian rejoint son grand inspirateur dans les distributions de prix et les listes d'ouvrages destinés à la jeunesse, récits d'aventure, fiction prophétique, mémoires de guerre imaginaire. Il signe sous le nom de capitaine d'Henri, anagramme désinvolte, qui n'a pas dû tromper grand monde rue Saint-Dominique. Alors ça, c'est en quelque sorte la dimension biographique du personnage que l'on va voir aux prises avec le commandement, aux prises, disons-le, avec le destin, car il y a dans l'ouvrage de Pierre-Marie quelque chose de la tragédie. On dirait que ce destin est écrit, que le fatum est là qui guette et qu'à chaque coin de page, il risque d'apparaître. Mais le bois des cours, écrit Pierre-Marie, et il précise, dans la correspondance de quelques hommes, il s'écrira obstinément « bois des corps », comme on écrirait « corps », C-O-R-P-S. Mais le bois des corps, c'est moins un lieu qu'une de ces images farouches qui étaient les énergies, bandes forestières allongées en diagonale, serrées entre un ravin et une route encaissée, il forme un léger saillant à l'intérieur des lignes allemandes, un angle pointé vers les régions annexées. Cette géométrie mentale, tous la partagent, tous y retrempent leur volonté de tenir, des commandants de bataillon aux derniers soldats. Flèche, javelot ou dard, qu'importe la métaphore, il faut garder le bois enfoncé dans la chair de l'ennemi.
De la bande originale du film Un long dimanche de fiançailles, réalisé par Jean-Pierre Jeunet avec notamment Audrey Tautou.
Le 18 février, écrit Pierre-Marie, alors évidemment, on est le 18 février 1916. Simon et les hommes de sa compagnie sont réveillés par une énorme explosion. L'obus est tombé près d'un petit poste. Vu la taille de l'entonnoir, il s'agit d'un très gros calibre. Avisés par téléphone, Drian et Renoir montent immédiatement au bois. Simon n'entend d'abord de leur conversation que des bribes inquiètes. Les deux hommes finissent par se tourner vers lui. Aucun doute, les tirs de réglage allemands viennent de commencer. À l'autre extrémité du bois, au plus près des lignes ennemies, Stéphane tire la même conclusion. Plusieurs calibres se succèdent du 88 au 150. Stéphane, les reconnaissant mal, les égrène tout haut avec une sorte de gourmandise à rebours. 18 mois de guerre lui valent ce qu'il appelle un coup d'œil et un coup d'œil et d'oreille absolu. On s'irrite d'autant moins de sa science qu'elle a permis plus d'une fois d'éviter les surprises qui suivent en tapinois certaines explosions. Au cours de la journée, fusant et percutant, alterne. Parfois, un obus à double effet, ces pestes dont les derniers renforts n'ont pas appris encore à se méfier. Dans l'après-midi, les 75 entrent en action. Aucune riposte de l'ennemi, ou presque. Cette relative paresse finit par intriguer. Elle inquiète même. C'est alors qu'on annonce une semaine de réglage, jour et nuit. On s'en rend compte, évidemment, et à mesure que s'avance la lecture, on comprend que, évidemment, le moment approche. On approche de la date fatidique. Dans son ordre du jour daté du 20 février, écrit Pierre-Marie, Drian annonce l'épreuve. Et là, je cite l'ordre du jour. L'heure est venue pour les gradés et les chasseurs des deux bataillons de se préparer à l'action et pour chacun de réfléchir au rôle qui va lui incomber. Il faut qu'à tous les échelons, on soit pénétré que dans une lutte aussi morcelée que celle qui s'apprête, nul ne doit se retrancher derrière l'absence d'ordre pour rester inerte. Multiples seront les interruptions de communication, fréquentes les occasions où des portions d'effectifs se trouveront livrées à elles-mêmes. Résister, arrêter l'ennemi par tous les moyens doit être la pensée dominante de tous. Les chasseurs se rappelleront surtout que, dans les combats auxquels ils ont assisté depuis 17 mois, ils n'ont laissé entre les mains de l'ennemi d'autres prisonniers que des blessés. Les chasseurs ne se rendent pas. Il y a, on pourrait presque dire, quelque chose de l'acmé antique dans ces lignes du colonel Drian, comme si toute sa vie aboutissait à ces quelques minutes extrêmement graves, Pierre-Marie.
Oui, absolument. Et avant même la figure du colonel Drian, moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'action, cette action extrêmement concentrée sur les deux jours, des 21 et 22 février 1916. Tout à l'heure, vous parliez de destin. Je crois qu'on retrouve avec ce déchaînement de feu des 21 et 22 février toutes les caractéristiques de la tragédie. L'unité de lieu, tout d'abord, dans la mesure où le Bois des Corps est une toute petite portion de terrain, un carré de chou, dira le caporal Marc Stéphane dans ses souvenirs. L'unité de temps, bien évidemment, puisque comme je viens de l'indiquer,
tout, en 50
tout est concentré sur une cinquantaine d'heures. Et l'unité d'action, dans la mesure où tout s'ordonne autour de ce déchaînement de feu, le Trommelfeuer, pour reprendre l'expression des Allemands, le jamais vu, dont parlent des jours avant le déclenchement de l'assaut tous les soldats français.
Alors cet assaut, je ne vais pas le lire, je laisse au lecteur le plaisir d'en découvrir tous les événements, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas fait directement, tout ça. On a vu ce saillant se défendre vraiment jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, dans un déluge de feu. Simplement, nous allons en parler, bien entendu, et nous allons accompagner le colonel Drian dans une mort qu'il n'a peut-être pas cherchée, mais qu'il n'aurait sûrement pas reniée.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pour celui qui en revient, Verdun, c'était bien. Pour celui qui en est mort, Verdun, c'est un port. Mais pour ceux qui n'étaient pas nés, qui n'étaient pas là pour apprécier, c'est du passé. Dépassé.
Michel Sardou sur Europe 1 avec Verdun, Franck.
On peut dire, Jean-Pierre Guénaud, que ce roman a dû vous emballer. Je connais bien vos goûts, je sais à quel point vous appréciez et le style et la précision biographique, anecdotique. Et on est là, plongé au cœur de l'événement. C'est ce qui explique que le prix ait été décerné, le prix Erwan Bergot,
c'était
décerné à Pierre-Marie.
Mais c'est un prix qui existe depuis pas mal de temps.
On
trouve dans le jury des écrivains comme François Sureau, Étienne de Montetti, Jean Raspail et bien d'autres, un certain nombre de militaires de haut rang. Et ce qui est très touchant là, c'est que ce prix cherche à rendre hommage aux valeurs de l'armée de terre. L'armée joue un rôle de plus en plus civil dans la société d'aujourd'hui. Et moi qui, comme beaucoup de gens, étais un peu antimilitariste quand j'avais 20 ans, j'ai considérablement révisé ma position. Ce qui est merveilleux dans l'histoire de Drian, c'est que tout passe par des lettres. Hein. Ce qui finit avec un combat qui oppose quand même, il faut le rappeler, 1200 chasseurs français à 10 000 Allemands. C'est-à-dire que le déséquilibre est énorme, tout ça, ils vont tenir deux jours. Tout passe par lettres. Tout passe par lettres avec cette première lettre qui date de l'été 1915, quand utilisant son rang de parlementaire, Drian écrit à son ami Deschanel, qui dirige un peu le destin des parlementaires, pour essayer de produire une commission parlementaire, une commission d'enquête. Joffre sera peut-être un jour convaincu de crimes contre l'humanité, car Joffre ne cessait de désarmer l'effort de Verdun. Aux yeux de Joffre, il était exclu qu'il se passe quelque chose à Verdun. Lui avait l'esprit ailleurs. Donc à chaque fois qu'un de ses officiers intervenait pour dire « mais il va peut-être se passer quelque chose là », il désarmait un des forts de Verdun. Et alors, avec six mois avant la grande ruée allemande, dans sa lettre, qui est déchirante, Drian raconte tout ce qui va se passer, et la conclusion de cette lettre est terrible, elle tient en une phrase, je me résume, des bras, des outils, du fil de fer barbelé. Eh oui. C'est-à-dire les éléments de la guerre moderne, là où on voit avoir des Français sans casque, en pantalon rouge, qui vont affronter avec des outils moyenâgeux, en dehors des canons de 75, des mitrailleuses, des tirs d'artillerie. C'est l'artillerie qui va faire 80% des victimes de Verdun.
Il y a également cette lettre à sa femme, quelques heures avant
la veille. La veille, il lui dit « Nous avons pris un prisonnier Bosch » et il lui décrit tout ce qui va se passer, les différentes phases de l'offensive telles qu'elles ont été programmées le lendemain, y compris la phase des lance-flammes.
Jusqu'au dernier jour, effectivement, il y a une prescience qui est tout à fait remarquable.
Oui. Alors j'ai entre les mains une relique particulièrement émouvante qui est datée du 22 février 1916. C'est l'épaulette avec le grade de lieutenant-colonel qui a été relevé sur le corps même du colonel Drian au moment de sa mort, Daniel David.
Oui, il a été inhumé sur le champ de bataille directement par les Allemands qui le connaissaient, qui l'ont identifié, car il était célèbre en France, mais aussi en Allemagne. Donc, les soldats qui l'ont trouvé ont su qu'il y avait là un officier important. On l'a inhumé sur le champ de bataille, en marquant la tombe avec les moyens du bord, et il a été exhumé en 1919, puis réinhumé, d'ailleurs au Bois des Corps, à des fins d'identification. Et c'est à ce moment-là que les personnes qui l'ont exhumé provisoirement, Madame Drian était présente, ont prélevé sur son corps l'une de ses pattes d'épaule avec les 5 barrettes de lieutenant-colonel qui ont donc passé 3 ans, en gros, dans la terre de Verdun, qu'on pourrait presque appeler une terre sacrée. C'est, en quelque sorte, pour ceux qui s'intéressent à Drian, le morceau de la vraie croix. Et c'est un présent, un signe inestimable que m'ont fait Monsieur et Madame Drian, ou que plutôt que m'a fait Madame Drian, de la part de son mari, Monsieur Robert Drian, qui était disparu à ce moment-là, c'était en 91. C'est vraiment le souvenir émouvant entre tous.
Oui, alors on voit effectivement, hein, c'est une épaulette d'officier, hein, tout simplement, et qui est donc dans un petit médaillon. Merci de nous l'avoir apporté, d'ailleurs. On a l'impression comme ça que le colonel Drian est avec nous. À l'instant, on peut dire que Jean-Pierre Guénot a eu des mots très durs contre Joffre. On a entendu l'accusation fusée. Est-ce que, Pierre-Marie, par le témoignage que vous avez rendu, vous voulez développer cet aspect-là et les éventuelles fautes de commandement qu'il y a pu avoir?
Alors, je ne suis pas historien, mais ce qu'il est possible de dire, c'est qu'il y a une formidable inconscience de la part du haut état-major à ce moment-là. Et que le colonel Drian a fait partie des annonceurs du pire, si je puis dire, comme il y en avait quelques-uns dans l'armée française. Et donc, annoncer le pire, ça vous met toujours dans une situation de porte-à-faux extrêmement difficile, puisqu'on se console à bon compte, en règle générale, en disant que le pire n'est pas toujours sûr. Malheureusement, le colonel Drian faisait partie des rares personnes dont le jugement était d'une pertinence imparable.
Vous avez écrit donc ce récit de manière très serrée, extrêmement documentée. Pourquoi l'avoir intitulé roman, alors qu'il s'agit d'un récit en quelque sorte?
Alors, je vous dirais tout d'abord, sans vouloir me défausser le moins du monde, que roman, c'est une étiquette qui est mise par l'éditeur. Mais cette étiquette, je m'y retrouve totalement. Je m'y retrouve totalement dans la mesure où j'ai eu justement à en débattre avec certains lecteurs qui m'ont dit que d'après eux, il s'agissait davantage d'un récit que de roman. J'assume complètement la dénomination de roman, dans la mesure où, vous venez de le rappeler, le travail de documentation a été important, mais ce travail de documentation s'est accompagné d'un travail d'imagination, étant donné que j'avais besoin, à côté des personnages réels, de personnages inventés, de personnages à ma convenance, hein, comme tout romancier, pour équilibrer, pour compenser certaines figures, pour développer peut-être certaines dimensions que les personnages réels ne m'auraient pas permis de développer de la même façon.
J'imagine que dans 2 ans et demi, pour les commémorations du centenaire de la bataille de Verdun, on va revenir sur le grand débat et sur le rôle sur les responsabilités diverses. On reviendra aussi tout simplement sur l'incroyable carnage qu'a pu représenter cette combien de morts. Enfin, c'est colossal, 700 000 personnes de part.
Avec plus de Français
de part et d'autre.
Avec plus de Français que d'Allemands.
Oui, un peu
dans
plus
la mesure
français,
où les inconséquences de Joffre se sont traduites par des pertes considérables côté français dans les 5 premiers mois de la bataille.
Pierre-Marie, Les Grands Jours, c'est aux éditions Fayard, le prix Erwan Bergo 2013, et puis de Daniel David, le colonel Drian, de l'armée à la littérature, le Jules Verne militaire, c'est édité chez Gérard Klopp, et ça c'est un bel album entièrement illustré. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir fait revivre l'espace d'une heure, ce personnage un peu oublié et qui mérite tellement qu'on se penche sur son cas. Et puis en ce qui vous concerne, Jean-Pierre, Pierre, on peut évidemment parler d'un grand nombre d'ouvrages, mais peut-être ce qui s'impose le mieux, c'est ces paroles de Poilu dans la circonstance.
Paroles de Poilu, et puis ensuite les paroles de Verdun dans lesquelles j'ai rendu hommage à Émile Drian.